Alors on va continuer sur la prochaine table ronde avec trois intervenants. Jean Roche, directeur de Cassiopée, le CCSTI, donc Centre de Culture Scientifique, Technique et Industrielle de la Drôme, également président de la Réunion des CCSTI, mais également Patrick Gagnère et Gérald Drubigny. Pardon.
Avec un 2, comme Drubigny.
Drubigny, c'est ça. Voilà. Donc vous allez nous parler de votre CCSTI, la façon dont vous travaillez. Vous me parliez d'être décentré, d'avoir une démarche un petit peu différente des autres CCSTI, un petit peu comme ça se fait ici à Poitiers.
Oui, c'est une... on va essayer de parler d'une expérience qu'on met en place dans la Drôme, mais effectivement un positionnement qu'on a voulu un petit peu différent. Alors... Voilà, c'est un début d'une expérience. Alors, bon, tout d'abord, ce qu'on veut dire en préambule, c'est qu'on partage vraiment cette approche qui souhaite associer différemment, plus largement, tous les acteurs de nos territoires pour avoir une vision partagée et dynamique de notre avenir commun. C'est vraiment, on est dans des approches... ici de cohésion, on veut une vision évidemment complexe, respectueuse des enjeux sociaux, environnementaux et économiques, mais qui soit les pieds dans notre territoire. Alors, dans ce cadre-là, c'est un petit peu l'obligation, on va lire une parole d'évangile, mais qui est pour nous importante. Jürgen Habermas disait « Tout organisme social ne tient que par la liaison d'actes de communication. Des comportements efficaces, en apparence exclusivement dirigés vers le succès, reposent en réalité sur d'autres dirigés vers l'entente. A contrario, un management simplement orienté vers l'excellence, mais incapable d'assurer la transition des valeurs, s'avère contre-productif. » Voilà. Nous nous situons dans cette interface entre économie, connaissance et territoire. Et il est bien entendu que nous ne réduisons pas la question du territoire à ses représentations institutionnelles. C'est évidemment beaucoup plus large que ceci. Nous sommes dans la Drôme, nous sommes en Rhône-Alpes. Et la Drôme est un territoire périphérique, comme vient de le décrire Christophe Guillouy, dans un livre qui a été publié le mois dernier, je crois. Quelques mots sur ce territoire. Déjà, il y a un pari qui est ancien, quand je dis ancien, qui a une dizaine d'années. On a fait le double pari du développement durable et de la connaissance, avec un mot qui est apparu très fortement dans les années 2003-2004, d'injecter de la matière grise dans le territoire. Mais évidemment, les cadres culturels sont lourds et on continue à penser de manière hiérarchique, en silo, etc. Bon, je crois que tout le monde a fait ses remarques, donc c'est absolument un lieu commun. On a un territoire qui produit de l'emploi qualifié, des jeunes diplômés. Un des problèmes d'ailleurs qu'on a, c'est que les chefs d'entreprise nous disent il faut absolument arriver à fidéliser les jeunes sur notre territoire parce qu'on a une véritable évaporation. Là, je vous disais, on est en Rhône-Alpes, mais... la loi de la gravité étant ce qu'elle est, il y a une vraie attraction vers les métropoles, Lyon, Grenoble, etc., alors qu'on forme, a priori, des jeunes avec une vraie volonté de les inscrire dans ces territoires. J'en parlerai tout à l'heure. On observe aussi beaucoup de destruction d'emplois peu ou pas qualifiés. On est dans cette région du sud de Rhône-Alpes. La fin de la deuxième révolution industrielle, ou peut-être même de la première, certaines fois, s'est passée et s'est produite il n'y a pas très longtemps. Donc vous voyez, il y a un gap qui est qui est important. Autre aspect, on a un pôle universitaire qui est important, qui est une antenne, une antenne des universités grenobloises. C'est le plus gros pôle décentralisé en France. Personne ne sait que Valence est une ville universitaire avec 10 000 étudiants. L'université n'est pas visible. Pourquoi n'est-elle pas visible ? Tout simplement parce que on ne l'a pas rendue visible. Hein. On a fait des bâtiments, mais à part ça, vraie difficulté. Autre difficulté dans l'analyse qu'on peut faire sur ce territoire, c'est que la culture technique est très faible. Et si on veut parler d'innovation, il faut aussi s'appuyer sur ces questions de culture technique qui sont tout à fait essentielles. Alors, quels sont les enjeux pour nous ? Les enjeux, l'emploi. On a un taux de chômage qui est de 2 points supérieur à la moyenne nationale. Et si vous regardez dans certains territoires, il y a vraiment des enjeux énormes. Et ça se tient. Des enjeux éducatifs. Et on va revenir ici avec ce qu'on disait sur la Drôme comme territoire périphérique. Je voudrais juste faire un petit aparté sur des choses qui nous atteignent littéralement au ventre. Quand nos médiateurs vont dans une partie du territoire, on voit de vraies inégalités territoriales. On va voir avec des jeunes qui viennent dans nos expositions ou dans des événements qu'on organise, on voit des gamins qui arrivent le matin, du chocolat jusqu'aux oreilles, les cheveux, même le Mistral n'arrive pas à les recoiffer, 2 barres de morve, excusez-moi. On voit que le papa et la maman n'ont pas eu d'attention pour ces gamins-là. On voit aussi des jeunes qui sont... qui ont des comportements sociaux. On voit bien les relations aux autres sont compliquées, ils n'ont pas de cadre. On voit aussi des jeunes qui arrivent pratiquement à l'école maternelle sans avoir même les prérequis qui leur permettent de bénéficier de ce qui se passe à l'école. Faut pas, on parle d'éducation nationale, mais on est dans l'instruction publique, ne l'oublions pas. Je vais vous donner un exemple de ça. Dans une exposition qui traitait de l'eau dans un territoire du Nord Drôme, qui parlait vraiment de ce territoire, un gosse de 5e est venu demander au médiateur, « Mais monsieur, c'est quoi une vallée ?» Alors vous allez me dire, juste un petit problème de définition. Alors il lui explique, tu vois, on a des collines de chaque côté, au milieu coule une rivière, etc. Mais c'est quoi une colline ? Le gamin habitait dans un village au sommet d'une colline. Son collège était sur une colline. Il ne savait pas ce qu'était une colline. On voit ici un phénomène qui est vraiment dû à des questions d'éducation. Des questions d'éducation et d'éducation dans la toute petite enfance. C'est-à-dire que là, c'est l'exemple que je donne fréquemment, c'est... Vous voyez, quand Christophe Colomb est arrivé dans les Caraïbes, les Indiens des Caraïbes n'ont pas vu les bateaux arriver. Ils ont vu des taches blanches sur la mer, mais les taches blanches sur la mer, quand on ne sait pas ce que c'est qu'une voile, quand on n'a même pas pratiqué ça, une tache blanche sur la mer, c'est un nuage. Donc les bateaux, ils les ont vus une fois qu'ils étaient arrivés, et les Espagnols avec. Ces gamins-là sont dans ces situations. C'est-à-dire que dans l'éducation sensorielle même, on n'a pas forcément construit les briques cognitives élémentaires qui vont permettre d'aller plus loin. Alors ce qui est inquiétant, c'est que pardon pour cet aparté peut-être un petit peu long, mais ce qui est inquiétant, c'est que vous avez un bon tiers de nos populations qui sont dans ces états-là. Qu'est-ce que ça va produire ? Qu'est-ce que ça produit par la suite ? Vous imaginez la perte en termes de créativité sur un territoire, de capacité de faire ensemble. Mais vous avez donc des enjeux qui sont des enjeux sociaux, vous avez des enjeux qui sont des enjeux culturels, hein, parce que la culture, c'est l'ensemble des productions humaines partagées, qu'elles soient matérielles ou immatérielles, et puis, n'oubliez pas, il y a des enjeux démocratiques forts derrière. Devinez le vote aussi. Hein, c'est une vraie question. Donc, des enjeux qui sont liés à l'emploi, qui sont liés à l'éducation, et naturellement, tout ce qui vient derrière, c'est l'investissement des habitants et une vision collective de leur territoire. Alors cette vision collective, elle est complexe, évidemment, à mettre en œuvre. Alors on pourrait se dire, comme ça, si on rêve un petit peu, si on fait de la géographie, la Drôme peut-elle être un territoire connecteur ? Alors, nous sommes Rhône-Alpins, mais du Sud. Et le développement en Rhône-Alpes va se développer autour de deux grandes métropoles. Ça a été largement et superbement bien dit hier. Donc vous avez Lyon et Grenoble. Voilà les deux forces d'attraction. Et malgré des tentatives d'organisation territoriale qui sont très intéressantes, sillon alpin entre Genève et Valence, des sites à enjeux en Rhône-Alpes Sud. Alors parmi les sites à enjeux, bon, en Rhône-Alpes Sud, trois sites à enjeux, Biovallée, la vallée de la Drôme, plus sur une vision territoriale du développement durable. La grotte Chauvet, tout le monde en a entendu parler, c'est un site à enjeu autour duquel on va produire du développement. Et puis, pour nous, en Drôme, le pôle Écotox, qui est un centre de recherche, un équipement de recherche. Et l'idée, c'était de dire, on va essayer de faire tirer un petit peu le développement économique vers le sud. Alors, ça peut fonctionner, mais ça peut fonctionner à la condition qu'on ne refasse pas Sophie Antipolis. L'exemple qui vient à l'esprit, c'est cette espèce de technopole extraordinaire noyé dans sa pinède et qui, d'un point de vue territorial, n'a que très très peu, voire pas du tout, d'effet. Alors, à quoi peut servir un centre de culture scientifique, technique et industrielle en Drôme ? Eh bien, nous, ce qu'on observe d'abord, c'est que paradoxalement, quand les points de repère s'estompent, c'est l'entreprise qui devient un des rares endroits structurants. Ça, c'est important. On met en place un projet qui va s'appuyer sur un triptyque. Alors, naturellement, cohésion sociale, une structure culturelle, mais aussi compétitivité et innovation. Alors c'est vrai que quand on dit compétitivité à d'autres partenaires culturels, ça paraît, je me rappelle d'un échange de mails avec des collègues en Rhône-Alpes, ça paraît presque un gros mot. Or, on doit se poser la question, à quoi sert-on ? À quoi sert-on ? Ben, nous, on pense que on doit servir, et on essaye d'être comme ceci, avec notre approche, avec nos manières de connecter. On s'est fait, entre parenthèses, piquer notre slogan par Nokia, hein, Connecting People. Ça, c'est, mais avec notre manière d'être, eh bien, de participer au développement de notre territoire et d'essayer de faire grandir et de grandir avec notre territoire. Pour ceci, on a choisi de se décentrer et de parler de responsabilité sociétale des entreprises parce qu'elle nous permet justement ce décentrement. On a souvent dans les structures de culture scientifique. Quand je dis souvent, c'est tout le temps. Tout le temps. Un discours qui est ancré dans le monde académique et culturel. Et ça, on a co-animé avec la réunion des CCSTI un séminaire de recherche au CNAM sur médiation et territoire. Je peux vous assurer que sur il y avait des conférences, en fait, des journées tous les mois. Il y a eu une seule intervention qui n'était pas une intervention qui parlait de cette relation entre le monde académique et le reste du monde. Donc, il y a une véritable urgence à rentrer dans les territoires réels avec, hein, dans lequel le monde économique est un acteur extrêmement important, mais aussi en intégrant des territoires ou des partenaires qui sont éloignés géographiquement et socialement. Et je veux dire par là, les jeunes dont je parlais, c'est une priorité. Il y en a d'autres. Je voudrais redire encore, pour parler de ce mix entre l'éloignement géographique et social, on a dans le sud de la Drôme une région superbe qui s'appelle les Baronnies. Alors on a des outils itinérants qui vont là-bas. On a rencontré des collégiens qui disaient, mais nous, on ne veut pas aller au lycée, c'est trop loin. C'est trop loin, on va essayer de se débrouiller autrement. Donc il y a cette réalité-là. Et vous dites, mais bon sang, dans nos territoires, on voit bien que tout le monde n'a pas la même chance d'y arriver. Alors, je vais pas être très long, c'est simplement que vous dire qu'on essaye, on essaye de mettre en place une sorte de matrice territoriale dans laquelle on va mêler d'un côté des thématiques et de l'autre côté des territoires, et en se donnant une méthodologie générale qui fait le lien que je vous ai très succinctement décrite, hein. Voilà, c'est les choses qui émergent, ça c'est le projet de notre territoire, où on va parler, par exemple, gastronomie, santé, environnement et société, pour l'écotox, numérique, enjeu extrêmement important sur notre territoire, mais il faudrait que je rajoute énergie, etc., puisque là aussi c'est une des caractéristiques. Et donc, faire converger des pratiques territoriales, ça veut dire aussi qu'on doit être capable d'imaginer et de tenir compte de l'imaginaire dans un territoire comme la Drôme. Je peux vous assurer, alors la Drôme, on va dire plutôt Rhône-Alpes Sud, c'est compliqué parce que ce sont des territoires qui sont aussi morcelés du point de vue de l'imaginaire. Donc là, il faut construire quelque chose de commun, et c'est une des premières choses que je vous avais présentées. Alors, là-dedans, nous ne sommes pas les seuls acteurs. Ça, c'est, on essaye de, là encore, si vous voulez, d'abandonner cette pensée verticale pour réseauter. Nous ne sommes pas les mêmes acteurs, mais nous avons la chance de parler à tout le monde et de faire de l'interfaçage d'une manière très, très, très originale. C'était des choses qui avaient été pointées justement lorsque le ministère de la Recherche et de l'Enseignement supérieur avait fait un audit des centres de culture scientifique. C'est que nous sommes vraiment des tricoteurs territoriaux. Et donc, on travaille alors avec des associations de développement territorial, des entreprises, des réseaux d'entreprises, universités, établissements publics scientifiques et techniques, syndicats, associations ONG, des think tanks économiques, des artistes, des structures culturelles, artistiques, pour produire du sens, de l'émotion. Mais nous ne sommes pas les seuls acteurs où s'impliquent nos partenaires. Donc, à construire encore des objectifs, des pratiques, des réseaux. Et là, c'est à vous que nous nous adressons. Est-ce qu'on peut, dans ce cadre d'idées, comment est-ce qu'on peut, avec vous, mutualiser des expériences, capitaliser ensemble, progresser collectivement? Voilà, c'est un petit peu, si vous voulez, notre idée, notre demande. Voilà, nous, on est dans la Drôme, on est vraiment dans cette idée de, avec l'espace Mendès France, dans ce cadre créativité et territoire, avec un sujet, une manière d'aborder les choses qu'on espère un petit peu originale. Voilà, merci.
Merci beaucoup. Est-ce que vous voulez intervenir également avant les échanges?
Je ne sais pas si c'est ça ou ça.
Les deux fonctionnent.
Oui, bonjour. Donc, juste peut-être pour renforcer ce que disait Jean, c'est vrai que moi je viens de Paris où j'ai fait toute ma vie professionnelle. J'étais donc un peu hors sol et en venant dans la Drôme, je me suis remis un petit peu sur un territoire. Et Jean a effectivement, dans toute son approche, toutes ces années où il a travaillé, a su faire travailler ensemble des gens très différents. Et ça, je crois que ça vaut de l'or. La vraie question après, c'est qu'est-ce qu'on va en faire pour aller où, etc. Toutes les questions qu'on peut se poser. Avant, peut-être, moi, je voudrais énoncer quelques constats qu'on avait partagés quand même. C'est qu'aujourd'hui, il faut considérer que la crise que l'on traverse n'est pas une crise passagère, qu'elle sera durable, qu'elle impactera les territoires, qu'elle impactera l'emploi et qu'il faut trouver effectivement de nouvelles solutions, de nouvelles approches, etc. Et tout à l'heure, ceux qui étaient là montrent une partie du chemin qui reste à faire et à construire. Ce que je crois aussi, c'est qu'on va vers des inégalités territoriales fortes. Je pense que chacun a dû lire le livre de Gustave Willouis, mais si je fais court, en gros, vous avez 22, 23 grandes métropoles en France qui représentent 85% de la richesse créée, mais que 40% de la population. Et que vous avez 60% de la population qui vit dans des territoires qu'il appelle périphériques, qui ne construisent que 15% de cette richesse-là, qui continuera la tendance lourde, ces territoires continueront de s'appauvrir. Et je pense que c'est une vraie réflexion qu'on doit prendre en compte aujourd'hui, compte tenu que la puissance de l'État ne pourra plus intervenir comme elle intervenait, ça c'est clair aussi. Et donc, c'est vrai que, si je me souviens bien, c'est Lénine qui disait « Quand en haut on ne peut plus et qu'en bas on ne veut plus, la situation devient mûre ». Je crois qu'elle est aujourd'hui à un niveau de maturité conséquent pour qu'on s'empare nous-mêmes des choses. Et que les solutions, la plupart, ne viendront plus d'en haut. Elles viendront de nous-mêmes, de notre capacité à travailler ensemble, de gagner ensemble et de faire en sorte que nos territoires, en fin de compte, se prennent en main. Et ce que je crois de la démarche de Jean, c'est qu'elle permet ça. Elle est attentive à chaque acteur, dans le respect de ce qu'est chacun. Et je crois que là, il faut aussi aller dans le sens d'une des tendances lourdes que vous avez énoncées, le repli sur soi. Mais ce n'est pas tant le repli sur soi qui est la tendance lourde, c'est sa conséquence. Sa conséquence, c'est le niveau de défiance qu'il y a dans ce pays. Je crois qu'on doit reconstruire sur nos territoires une vraie confiance qui est la garante, effectivement, de possibles objectifs qu'on doit atteindre. Et donc, voilà.
Je vais peut-être en profiter pour dire aussi un petit couplet forcément culturel, parce que il me semble dans ce que dit Patrick que cette responsabilité sociale que nous avons vis-à-vis du progrès et vis-à-vis de la crise, face à la crise, elle ne peut passer que par la mise en route, la mise en œuvre de formation, d'éducation, de prise en compte de tous les publics. Et ça, c'est de l'ordre de la culture. C'est de l'ordre de la culture, mot, terme, dont il ne faut pas avoir peur, même si on l'a galvaudé tant de fois et qu'il peut énerver. La culture, c'est ce qu'il y a en profondeur dans un centre de culture scientifique et technique qui est un élément clé d'un développement d'un territoire et de sa population. La culture, ce n'est pas tellement, en fait, le problème de l'artiste qui va amener son sensible et son émotion, c'est surtout, en fait, le rapport qui va s'établir entre l'entreprise, lieu de changement possible, encore possible, et non plus le politique qui, on le voit, a atteint des limites. C'est donc en fait un travail de fond qui fait place également à la dignité des gens, à la formation des hommes, à l'éducation dont parlait Jean tout à l'heure, nécessaire pour les petits, nécessaire pour les ados qu'il nous faut capter et garder. La pratique amateur, par exemple, est une dimension de l'action culturelle. Plutôt que de culture, parlons d'action culturelle comme d'une action possible au service en fait, du développement des territoires. Là, il y a quelque chose à faire. Il y a quelque chose à faire, pas uniquement en Drôme, pas uniquement en Poitou-Charentes, avec tous les CCSTI de France. Je pense qu'il y a quelque chose à faire. La mutualisation de nos moyens d'intervention et de nos pensées fortes, telles qu'on en a été témoin pendant 3 jours, sont là pour dire... C'est essentiel. Battons-nous, c'est le temps.
Quelques questions rapides, concises, courtes et des réponses aussi concises et courtes que possible. Alors, courtes.
Moi, je vois beaucoup de bienveillance dans les propos de Jackie parce que effectivement, ça me concentre et ça me grandit forcément. Alors, je vais essayer, je me lance. Ah oui, alors, la question, je voulais la poser au CSTI de la Drôme, enfin en Drôme, et aussi à la conférence des CSTI en France. Est-ce que finalement les CSTI, dans leur posture, parce que ce n'est pas seulement un statut, centre, etc., c'est aussi une posture, est-ce que finalement ce n'est pas l'endroit où quelque part peut s'incarner cette responsabilité sociale du territoire? Et je vois dans les CSTI, en fait, le levain des Andalousies de demain, c'est-à-dire de l'espérance et du progrès. Et finalement, je me disais, un peu pour faire un clin d'œil à Jackie, est-ce que ce n'est pas l'endroit où on doit encore plus affirmer la nécessité de la créativité du territoire et notamment l'endroit où on peut proposer, encore plus que les Fab Labs, un recueil citoyen de la créativité dans les territoires et qu'enfin on propose à tout citoyen, y compris moi-même, parce que je l'ai dit hier, un espace de contribution, de participation, de façon à ce que l'innovation se fasse par l'aval, par l'usager, par celui qui vient faire don parce qu'il adhère au projet. Et aujourd'hui, on n'a plus d'endroit où on peut affirmer qu'on adhère au projet collectif, au projet du commun. Est-ce que le bien commun n'est pas quelque part dans cette affirmation que seuls les CSTI, aujourd'hui, je vois en termes strictement de vertèbre, enfin de structure, peuvent affirmer la place de cette responsabilité sociale qui consiste à affirmer que les lieux de créativité et territoire sont des lieux de recueil de la participation de tous et de finalement pas simplement être des lieux de conservation et de transmission, mais d'être le creuset de l'avenir et le creuset finalement de l'espoir commun.
Merci pour ta question, Yassir.
Oui, alors beaucoup plus prosaïque. Comment liez-vous, finalement, j'ai assez mal compris comment vous liez l'action des CCSTI à la RSE. Est-ce que vous pourriez expliciter un petit peu, s'il vous plaît?
Une autre question, et après, les réponses.
Dans les changements qu'on voit, dans les plasticités qui se déplacent, est-ce que vous avez envisagé, ou est-ce que vous êtes confronté, ou est-ce que vous avez imaginé la question des plasticités financières avec de l'argent citoyen?
Esther, court et concis.
Court et concis. Vous dites qu'il faut effectivement changer de mode et donc travailler sur les activités humaines, donc les entreprises comme lieu de vie. Et on continue, et tout le monde continue à employer le même langage de durable, de structure, donc des langages qui ne donnent rien sur la vie. Voilà, donc je voulais vraiment dire combien, si on veut avancer, il faut qu'on change nos langages et qu'on qualifie l'activité plutôt que avoir des langages insipides qui ne veulent plus rien dire.
Je vais répondre déjà sur la première question sur les CCSTI. Il faut, par rapport à l'ensemble des CCSTI, la première chose, je l'ai déjà un petit peu dit quand j'ai parlé du séminaire de recherche, malheureusement, dans l'ensemble des acteurs de la culture scientifique, on a encore ces réflexes-là très académiques. On est quelques-uns à avoir beaucoup, et il faut rendre à César ce qui est à César, sous l'impulsion de Didier Moreau. Depuis le milieu des années 2000, travailler sur cette relation entre la connaissance, les acteurs culturels et le territoire. Tous les CCSTI ne sont pas partis sur cette histoire-là. Dans l'histoire récente, on a eu une appétence aussi d'un certain nombre de collègues pour des modèles qui sont des modèles qu'on appelle des centres de sciences, avec là encore un effet gravifique d'univers sciences. Et donc on est encore plus, dans certains cas, sur des modèles très très académiques et culturels, mais dans l'idée de muséographie, si vous voulez. Ça c'est un premier élément. Le deuxième élément, c'est que ça c'est une caractéristique de nos centres. Nos centres sont des centres qui ont été incarnés par des contractualisations territoriales. Ces contractualisations territoriales, donc c'est une initiative de l'État, mais avec les régions principalement, mais aussi les départements des villes et souvent l'ensemble du millefeuille, mais aussi des entreprises, des structures associatives. Là, quand cette contractualisation, quand ça marche, quand il y a beaucoup de connexions, on y arrive. Mais je dois vous dire que ce n'est pas malheureusement dans la majorité des cas. Hein, donc, dans l'idéal, oui, on rêve de faire, de refaire Cordoue. C'est pas partout, mais ce dont on rêve surtout c'est de répondre à ou de participer à cette aventure qui va nous faire grandir encore. La constatation de Patrick était essentielle.
Oui, pour répondre à votre question, vous avez raison, en fin de compte, on n'a pas très bien montré cette articulation. On part du postulat que dans un écosystème territorial, les entreprises en font partie et que aujourd'hui la réflexion des entreprises rejoint un peu d'autres réflexions territoriales et qu'elles évoluent. Elles évoluent à travers effectivement la reconnaissance de la responsabilité sociétale des entreprises. Et donc il y a un certain nombre d'actions. Tout à l'heure, quand on parlait du mécénat de compétences, c'est une de ces actions. Et puis que on ne se rapproche pas aussi des réflexions des think tanks d'entreprise. L'Institut d'entreprise, que je connais bien, a sorti entreprises et territoires, etc., etc. Il y a de vraies réflexions. Donc, ça part de l'entreprise, mais il y a là, certainement, sur un territoire, des choses à mener avec elle. Et on a utilisé la RSE comme un véhicule pouvant faire en sorte que l'entreprise devienne un des acteurs de notre territoire. Notamment, plus dans un territoire on y mettra de la cohésion sociale et on fera travailler les acteurs ensemble, plus on lèvera le niveau de défiance, plus le territoire deviendra attractif. Et effectivement, pour nous, la RSE, c'est ce lien-là, mais qui n'est pas obligatoirement qu'avec les grandes entreprises, qui est aussi la PME. La PME qui n'a pas obligatoirement une organisation avec des ressources humaines et un DRH, mais qui aime son territoire. Donc ce petit entrepreneur qui aime son territoire, c'est aussi pour nous l'occasion de le capter à travers la RSE. Voilà. Et puis, pour le langage, je suis bien d'accord avec vous, il faut trouver aujourd'hui les mots qui impactent ce qu'on souhaite construire et qui ne sont pas la reproduction des mots qui viennent d'en haut. Il y a effectivement là tout un travail à faire.
C'est mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde. Voilà.
Merci bien. Je vous propose de passer à la suite, si
merci,
vous voulez bien.
Merci pour le timing. Voilà.
Pardon. Ah oui.
Ça, c'est une piste qu'on n'a pas encore explorée, mais qui fait partie du plan de charge qu'on voudrait mettre en place assez rapidement. Oui.
Alors, on va laisser la parole à Mathilde Van der Rusten.
C'est sérieux, hein, c'est pas botté en touche. Hein. C'est vraiment à l'ordre du jour. Mais on commence à travailler dessus.
Merci beaucoup. Merci. Et puis, on va laisser la parole à la prochaine intervenante, Mathilde Van der Rusten, conseillère formation à l'Institut national spécialisé d'études territoriales, l'INSET, de Dunkerque. Sur la question de comment faire pousser la créativité dans les territoires. Peut-être en formant les fonctionnaires territoriaux à ces questions. Je ne sais pas, vous allez nous l'expliquer. Merci.
Bonjour et puis merci de l'invitation. On va revenir sur les sigles CNFPT, INSET. On est aussi une institution et qui se respecte en tant que telle. Nous avons toute une série de sigles, donc on va y revenir rapidement. Quelques mots pour démarrer. Non, je ne vais pas revenir sur l'histoire du CNFPT, mais c'est quelques périodes ou dates clés pour expliquer un peu le point d'où je viens, institutionnellement parlant, et puis d'où je parle aussi de Dunkerque. Ce n'est pas neutre non plus dans mon propos. Donc le CNFPT, c'est une institution qui a un petit peu plus de 40 ans maintenant, et elle a été créée d'abord un centre de formation des personnels communaux. Et dans ces années-là, dans les années 71-72, il y a eu tout un mouvement qui visait à reconnaître le professionnalisme et du coup à renforcer les compétences des agents communaux. C'était aussi la décennie où la formation professionnelle a été instaurée en période de crise pour une question des préoccupations d'emploi à l'époque, pour la requalification des chômeurs. Donc il y avait tout un mouvement de reconnaissance et puis aussi des personnels communaux face au personnel de l'État. Donc le CNFPT, il est né de ce mouvement et avec trois principes majeurs qui le sont toujours. Le paritarisme, donc nous sommes une institution et qui est dirigée par parité des représentants des collectivités, des représentants des organisations syndicales. Et puis mutualisation, surtout pour les petites communes, et puis promotion sociale. Ça, c'est vraiment des fondamentaux pour le CNFPT. Et puis après, dans les années 80, le CNFPT a suivi, instauré le CNFPT dans le mouvement de la décentralisation. Donc il est devenu Centre national de la fonction publique territoriale. Et c'est là où apparaît le statut. Et ça, c'est quelque chose pour nous qui est fondateur aussi, le statut de la fonction publique territoriale, au regard notamment, au regard de la fonction publique d'État. Donc, le CNFPT suit ce mouvement de décentralisation et quelque part, il suit aussi ce mouvement d'institutionnalisation du développement des territoires. Pour ceux qui l'ont vécu, le fait de créer un statut de la fonction publique territoriale, le fait de nommer des métiers du développement, des métiers de la fonction publique territoriale, quelque part, on institutionnalise, on structure la fonction publique territoriale. Et puis, quelques années passent, je fais vite, et là, il y a une nouvelle période qui s'ouvre. Depuis 2007, c'est l'introduction de ce qu'on appelle la formation tout au long de la vie. Et là, il y a quand même un changement de paradigme qui s'opère dans le CNFPT. En 2009, le CNFPT adopte une stratégie de développement qui s'appelle le projet national de développement. Donc, le sigle, ça va être, je vais parler de PND. Hein. Grosso modo, c'est notre stratégie, c'est un plan stratégique. Voilà, je dirais, c'est le PND. Et alors, dans ce mouvement, toujours, le CNFPT, donc depuis les années 70, eh ben, il s'établit à plusieurs niveaux de territoire. Donc, aujourd'hui, vous avez une représentation du CNFPT dans chaque région, par le biais des délégations régionales. Et puis, le CNFPT s'est structuré au fur et à mesure que ses compétences et ses missions se sont développées. Donc, d'abord, la mission de formation, au travers de ces délégations régionales, qui ancrent le CNFPT dans les territoires, puisqu'à la tête de la délégation régionale, on a un élu. Vous voyez, c'est vraiment un CNFPT qui s'ancre dans les territoires. Et puis aussi, sont apparus dans les années 80 pour renforcer la professionnalisation et renforcer les compétences professionnelles, pour accompagner l'émergence de talents aussi chez les fonctionnaires territoriaux. Eh bien, on crée des ENACT, des écoles nationales d'application des cadres territoriaux, et puis qui sont devenues aujourd'hui des INSET, dont je fais partie. Et donc tout ce mouvement, alors INSET, c'est Institut National Spécialisé d'Études Territoriales, dont je fais partie à Dunkerque. Et donc ce mouvement de développement du CNFPT dans son offre de formation, eh bien, accompagne aussi l'évolution de la fonction publique territoriale, parce qu'à la base, les agents communaux, on avait 2% de cadres à peu près. Aujourd'hui, les cadres ne sont pas majoritaires dans la fonction publique territoriale, mais c'est largement développé. Donc ça accompagnait cette montée en compétences et cette montée aussi en niveau de qualification dans la fonction publique territoriale. Et aujourd'hui, donc, on a donc les 29 délégations régionales. Demain, avec la nouvelle carte des régions, on verra ce que ça donnera. Il y a 4 INSET, normalement on ne devrait pas bouger, et un INET, Institut National d'Études Territoriales, qui est à Strasbourg, il est en face de l'ENA, et ce n'est pas un hasard, puisqu'il forme les cadres A+, face aux ENARC. Mais il y a quand même des formations conjointes. Hein. On ne se tourne pas le dos quand même. D'ailleurs, dans les écoles de services publics, on travaille très souvent ensemble. Ce mode collaboratif et de coopération, je vais y revenir aussi petit à petit. Du coup, aujourd'hui, on a donc une organisation territoriale du CNFPT qui accompagne les collectivités. Et puis, on a une organisation thématique. Moi, j'ai cette casquette-là aussi. Donc, je suis dans un INSET et en plus, j'ai une casquette qui est pôle de compétences. Et là, c'est quelque part une innovation. Alors, elle est, comme toute innovation, elle n'est pas forcément nommée, elle n'est pas forcément... il n'y a pas vraiment de prise de conscience de ça, mais c'est quand même une innovation. C'est-à-dire que le CNFPT, dans son organisation, comme toute bonne institution pyramidale, a mis en place une organisation, on va dire, horizontale à travers ses pôles de compétences. Ces pôles de compétences, ils sont spécialisés dans différents domaines. Alors, à Dunkerque, par exemple, on a concentré les pôles de compétences spécialisés en aménagement et développement durable des territoires. Donc, on se préoccupe des formations en lien avec le transport, avec l'urbanisme, l'aménagement, l'habitat, politique de la ville, développement économique. Voilà ce que le CNFPT met derrière le mot aménagement et développement des territoires. Vous avez un INSET à Montpellier qui, lui, est spécialisé sur les métiers techniques. Vous avez un autre INSET à Angers qui est plutôt spécialisé sur les métiers, on va dire, les métiers des politiques sociales. Et vous avez encore un INSET à Nancy qui, lui, est plutôt spécialisé sur la culture et l'éducation jeunesse. Voilà un peu les dominantes de ces INSET. Et donc nous, pôle de compétences, je vais y revenir aussi, on a un champ d'action national. C'est pour cette raison que je suis ici à Poitiers, c'est que je peux, mon action est de rayon national. Donc c'est là où le CNFPT peut jouer aussi, peut être fait réseau entre l'ancrage dans les territoires, l'INSET est bien à Dunkerque, qu'on est bien ancré dans notre territoire, et en même temps, on s'adresse à un public national. Alors aujourd'hui, on est toujours dans cette phase de mise en œuvre de notre PND, et qui est donc ça, c'est un document de référence pour nous. Et alors ce PND, il a fait l'objet d'une évaluation depuis un an ou deux. Je vais y revenir parce qu'il y a des petits points quand même qui sont intéressants, il y a des inflexions à apporter d'après les rapports. Et donc on a 5 priorités dans le CNFPT. Alors tout ça, c'est un discours, vous allez me dire, un peu institutionnel, mais on va y revenir petit à petit, comment le CNFPT peut encourager et peut participer à la créativité dans les territoires. Alors déjà, réduire les inégalités d'accès à la formation. Ça, c'est le premier objectif. Le deuxième, c'est contribuer à l'amélioration de la gestion publique locale. Un autre objectif politique, qui est de développer des nouveaux champs, et ça nous concerne très directement, des nouveaux champs de coopération et d'ingénierie. On va y venir après, la manière dont on peut travailler cette question-là. En tout cas, c'est ce que je fais à mon échelle. Et puis après, promouvoir le développement durable dans la formation et dans la gestion. Et là, c'est pareil, ça nous concerne directement. Donc, il y a des actions qui sont mises en place au niveau national et aussi au niveau des territoires. Alors aujourd'hui, le CNFPT s'adresse à 1,8 million d'agents territoriaux. Quand le centre de formation des personnels communaux a été créé, il s'adressait à aller à 600 000 personnes. Là, on s'adresse à 1,8 million d'agents territoriaux. Alors, même si c'est pas écrit, l'histoire du CNFPT ne s'est pas écrite de cette manière-là, la création de ce statut de la fonction publique territoriale, l'identification des métiers de la fonction publique territoriale, eh bien, participe, en fait, c'est construit de manière parallèle et conjointe avec l'institutionnalisation du développement des territoires. Quand les collectivités s'emparent du développement territorial, une des traductions en matière de métiers et de compétences, eh bien, c'est cette reconnaissance par le CNFPT. Donc, quelque part, il accompagne ce mouvement. Donc, comment le CNFPT accompagne les agents et les collectivités dans l'émergence des talents, c'est-à-dire dans les nouvelles compétences et les nouveaux métiers? C'est le cœur même de ses fonctions. Ça semble être une évidence, mais ça va mieux en le disant. Et sans tenant compte, comme ça a été dit là tout avant moi, qu'on s'inscrit dans une évolution sociale, institutionnelle, économique, qui en ce moment est un peu illisible pour chacun d'entre nous. Alors, comment on peut contribuer? D'abord, le CNFPT, il est bien dans son époque, qu'on appelle aujourd'hui les sociétés de la connaissance, que l'on voit à l'échelle mondiale ou à l'échelle européenne. C'est les stratégies de Lisbonne, par exemple, les accords de Bologne. C'est-à-dire qu'on place la connaissance comme vecteur d'émancipation des hommes et des femmes, évidemment, émancipation et autonomisation dans son emploi et dans sa citoyenneté. Et ça, ce n'est pas un vain mot pour le CNFPT, parce que face à ces 1,8 million d'agents, on n'échappe pas à la règle de l'inégalité face à la formation. C'est-à-dire que mieux on est formé à la base, et plus on se forme. Donc plus on est formé, plus on se forme. Donc un des défis pour nous, c'est de former ceux qui n'ont pas eu accès à une formation initiale. Alors aujourd'hui, je vous parle beaucoup de formation individuelle, mais il s'agit aussi de produire de l'intelligence collective. Et ça, c'est un autre défi pour le CNFPT. Et c'est surtout dans une société, on l'a dit, de transformation, de mutation et de transition. Alors là, moi, ça me fait penser aux travaux que mènent certains prospectivistes comme Philippe Destat ou Manuel Castel. Ou alors, il y a encore les travaux aussi de Myriam Revaud-Dallone, qui nous montre bien qu'on est dans une phase de transition, sauf qu'on ne sait pas combien de temps ça va durer et on ne sait pas où on va. Donc cette notion de crise, on est bien là. Et le CNFPT est frappé comme tout à chacun. Et donc, va essayer d'une méthode, d'une autre, de se rendre un peu plus proactif. Comment passer à la créativité? Juste un autre élément de contexte pour vous dire à quel point à Dunkerque et dans le Nord-Pas-de-Calais, ça nous parle ces questions-là. Nous, on est dans un territoire industriel. On est peut-être un des derniers bastions industriels de la France, avec tout ce que cela comporte sur le plan social, sur le plan de la santé, sur le plan économique. Et du coup, et la transformation physique de nos territoires en Nord-Pas-de-Calais. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la question de l'apprentissage, de la connaissance, c'est presque vital pour nous. Et quand on peut penser aussi aux villes, aux agglomérations comme Saint-Étienne, Saint-Nazaire, Nantes, qui ont franchi le pas de l'industrie créative. Nous, le CNFPT n'est pas extérieur à ces mouvements. Et alors, comment on s'inscrit? D'abord, le CNFPT dans les territoires. Comment on travaille? D'abord, ce sont surtout le rôle des délégations régionales, d'être à l'écoute et des collectivités. Du coup, il y a vraiment un travail de dialogue entre une analyse des besoins de formation pour identifier les nouvelles compétences nécessaires, pour favoriser des transitions vers d'autres métiers. Et du coup, le CNFPT, c'est vraiment le partenaire des collectivités pour élaborer des diagnostics. Et du coup, nous, on doit un peu se transformer aussi d'organisme de formation. On passe à un organisme aussi d'observation et de diagnostic. Donc, on se transforme aussi dans nos pratiques pour accompagner les collectivités. Et on accompagne aussi les collectivités dans la gestion aussi de la transformation. Donc, on est aussi bien d'un point de vue individuel quand on reçoit nos stagiaires, mais aussi, eh ben, on se préoccupe de transformation des organisations. Donc, c'est là aussi où on met un pas dans, dans ce qui est de la créativité, puisque transformation des organisations nécessite forcément des changements de pratique, donc de la créativité. Alors, un exemple tout bête sur l'intercommunalité. Là, en ce moment, on fait un gros travail sur l'intercommunalité pour accompagner la finalisation de la carte intercommunale, les histoires de fusion. Donc, on a mis en place tout un... Alors, dans notre catalogue classique de formation, on a nos fondamentaux. C'est quand même difficile, on est un gros paquebot, donc on ne peut pas non plus changer totalement la manière d'agir. Et puis, elle a quand même fait ses preuves. Donc, on a tout un catalogue de formation. Puis aussi, on met en place des kits vidéo qui sont mis en ligne, qui sont consultables par tout un chacun. Donc, on essaye de diversifier la manière, les approches pédagogiques du CNFPT en multipliant aussi bien les formations dans le catalogue, les formations, ce qu'on appelle en intra chez nous, comment on accompagne, comment on va au cœur des collectivités, et puis comment on développe des supports pédagogiques sur tel ou tel sujet. Du coup, voilà, ça c'est dans la transformation des organisations. Alors le deuxième élément de réponse, comment le CNFPT dans les territoires, quel est son rôle dans les territoires? Là, c'est un peu plus délicat. Là, c'est un travail un peu plus de dentelle, d'être en dialogue avec les autres, les acteurs, l'ensemble des acteurs du développement des territoires. Alors, c'est les acteurs professionnels, et puis c'est les acteurs économiques. Et comment on s'inscrit? Et là, l'enjeu, c'est de faire réseau. Là, tout à l'heure, là, on parlait de réseau, mais ça aussi, ça, c'est quelque part aussi là où on va se rencontrer. C'est quand le CNFPT se met en réseau avec d'autres acteurs, et puis, donc, au niveau d'un territoire, mais aussi à multiniveau. Comment le CNFPT, par ses antennes locales, régionales, et puis au niveau national, peut travailler en coopération, en coproduction même, avec d'autres acteurs. Et là, j'arrive à ce qui m'amène ici. Ce qui m'amène ici, en fait, c'est une invitation que j'ai reçue de Jackie, il y a un an. Parce qu'il y a un an, on a monté un atelier sur l'économie sociale et solidaire, et plus particulièrement sur les PTCE, les pôles territoriaux de coopération économique. Pourquoi le CNFPT? Alors, pourquoi le CNFPT? Pourquoi moi j'y suis allée? Parce que, voilà, là, on se trouve au cœur de nouveaux métiers, de nouvelles compétences, de nouvelles manières de faire de l'économie territoriale. Pour monter cet atelier, on a été chercher, j'ai été chercher d'autres structures, le labo de l'ESS, par exemple, qui est une structure à Paris, nationale, mais aussi on a travaillé avec le réseau des territoires d'économie solidaire, le RTES, et puis on travaille avec les chambres régionales d'économie sociale et solidaire. Et donc cet atelier auquel a participé Jackie était sur les PTCE, c'était une manière pour le CNFPT aussi d'être acteur de ce mouvement. Donc c'est par l'animation d'un atelier. Mais en Nord-Pas-de-Calais, tous les ans, on monte une journée ensemble et on construit cette journée ensemble sur différents volets de l'économie sociale et solidaire. Je sais que mes collègues en région PACA travaillent aussi, par exemple, avec le RTES en région PACA. Donc c'est une manière aussi pour nous de coproduire. Et c'est vraiment de la coproduction puisque en nombre d'heures passées ensemble, ça pourrait être un indicateur. On travaille par exemple avec la Fédé des Parcs, on travaille avec le CEREMA. Donc ça, c'est une manière aussi pour le CNFPT d'être parmi les acteurs du développement et de faire en sorte que cette créativité puisse naître à l'occasion d'un atelier, d'une journée, de rencontres. Donc c'est une grosse institution, mais qui utilise aussi ses moyens, ce sont ses canaux humains, comme ma présence ici. Donc c'est aussi une manière, on parlait de la créativité sous contrainte, ça c'est un exercice quotidien au CNFPT, et qui est très riche en soi, qui produit beaucoup, vraiment. Alors, pour la petite histoire, c'est vrai que les entretiens territoriaux de Strasbourg, ça s'appelle les ETS, se sont déroulés à Lyon. Nous, on a nos rencontres d'Angers et l'année prochaine, vont avoir lieu à Lille. Voilà, ce sont nos petites originalités. Et c'est par cette fertilisation, et c'est ça qui est fertile en fait, c'est que ça permet voilà, de croiser, de faire autrement. Alors ça, c'était le CNFPT dans les territoires. Par exemple, une autre action, là, pour vous parler de l'INSEAD de Dunkerque, on est au début de quelque chose à l'INSEAD de Dunkerque, puisque pour la première fois, on va partager un bâtiment. On est locataire de notre bâtiment, dans lequel on y vit, j'avais envie de dire. On partage un bâtiment avec d'autres structures, certes administratives, mais pourquoi pas, on pourra imaginer à terme qu'il y ait un collectif d'artistes qui viennent s'installer avec nous. On peut imaginer un Fab Lab. On est dans ce qu'on appelle un Learning Center. Et ce Learning Center, donc c'est un ancien entrepôt des sucres. Parce qu'à Dunkerque, c'est une ville portuaire, donc on n'a pas... Il nous restait un entrepôt du 19e. On l'a transformé en Learning Center, c'est-à-dire surtout la communauté urbaine de Dunkerque, avec la région Nord-Pas-de-Calais. Et donc, on nous a sollicité pour occuper ce lieu avec l'agence d'urbanisme, avec un lieu d'exposition ouvert au grand public. Et donc, ça, le CNFPT, par le fait d'occuper un bâtiment avec d'autres, avec du grand ouvert sur le grand public, avec des expositions, avec des conférences, ce sera aussi une autre manière de faire des formations et de faire. On pourra être là vraiment comme levier aussi de créativité. Ça a commencé par exemple en septembre sur une journée qu'on organisait sur la thématique des temps dans la ville. Avec, on avait invité une compagnie de performance artistique, avec des philosophes, avec des sociologues, des urbanistes, et tout ce petit monde s'est croisé pendant toute une journée. Et ça, voilà, c'est une manière pour nous, CNFPT, aussi de produire de l'activité et d'être levier. Alors la créativité maintenant, et surtout la créativité dans les territoires, dans nos formations. Un autre élément de réponse... C'est que il faut. Alors, je vais vous inviter à lire entre les lignes. Alors, on dirait que dans le CNFPT, nous avons un catalogue de formation qu'on appelle l'offre OIC, ONH. Alors, voilà, dans d'autres sigles. Donc, c'est l'offre de formation coordonnée et l'offre nationale harmonisée. Derrière ces mots, derrière ce catalogue, ça s'inscrit véritablement dans la formation tout au long de la vie. C'est-à-dire qu'on invite chaque stagiaire, à se construire sa propre formation, donc son propre parcours de formation en lien avec ses désirs ou pas, enfin, ses désirs d'évoluer dans ses métiers, de changer de métier. Et derrière ces catalogues, il faut bien y voir aussi donc, une invitation à construire son propre parcours, mais c'est aussi une affaire de contractualisation entre le stagiaire, entre nous, le CNFPT, et puis l'employeur, et j'ai envie d'aller au-delà, celui du territoire. Notamment en ce qui me concerne, puisque là, en matière de formation, je m'occupe de développement économique. Chaque stagiaire qui arrive en formation arrive avec sa collectivité, les problématiques de sa collectivité, mais aussi celles de son territoire. Et c'est avec ce matériau que le stagiaire est amené à construire ses propres repères et ses propres... Alors, pas connaître, c'est sa nouvelle manière de... faire son métier, ses nouvelles méthodes de travail. Donc, derrière, alors en intra, quand le CNFPT intervient en intra, c'est là aussi où on met les acteurs face à leurs propres besoins en formation. Donc c'est une manière aussi, à chaque moment de formation, où on peut travailler cette question de la créativité. Et puis le CNFPT met un pied aussi, forcément, dans les nouvelles approches pédagogiques. Donc là, on est en train de construire des offres qui mêlent et distanciel et présentiel. Par exemple, on a mis au point un Serious Game sur le développement durable. On a mis au point un Serious Game aussi sur l'urbanisme, qui s'appelle Urbax. Là, je vous l'ai dit, on intègre désormais un Learning Center. On va chercher à développer du e-learning à travers les MOOC, par exemple. Donc ça, c'est en émergence chez nous. Donc ça, ce sont des espaces de création, de créativité, présentiels dans les moments de formation ou à distance. On va y venir petit à petit. Et puis aussi, CNFPT, il intègre cette question de créativité dans ses événementiels. Je vous ai parlé du temps des villes, mais ça peut être aussi des séminaires de prospective. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on construit avec les partenaires dans un territoire donné. Par exemple, là, en décembre, à Dunkerque, on organise un séminaire sur les territoires industriels, un séminaire de prospective. On va inviter des personnalités plutôt nationales pour avoir leur point de vue, pour avoir le point de vue de l'Europe, comment on se place dans une échelle nationale européenne. Mais aussi, c'est un programme qui est co-construit avec les Dunkerquois, avec les gens du Nord-Pas-de-Calais, puisque ça les concerne directement. Donc nous, on est quand même l'interface entre ces différents niveaux, entre ces différents échelons. Donc on aide à la construction de savoir-faire, de compétences. Et vraiment l'enjeu pour nous, c'est de rendre chaque stagiaire acteur de sa propre formation et de son évolution professionnelle. Alors derrière ces mots valises, vous pouvez me dire, c'est du blabla, c'est facile de dire ça. Effectivement, nous, ça nous pousse dans nos retranchements et ça nous conduit à inventer toujours de plus en plus de nouvelles manières de faire de l'ingénierie de formation, de faire de l'ingénierie aussi de la formation pédagogique en face à face. Comment on peut innover, nous, dans nos propres pratiques? Alors, par exemple, au niveau du CNFPT, au niveau du siège, en interne, il existe une coopérative pédagogique où chaque conseiller formation peut contribuer en mettant en pot commun une innovation pédagogique. Voilà, ça peut être un cahier de bord, ça peut être un plan d'action personnalisé, ça peut être à base de photo-langage, ça peut être... Voilà, on a mis au point une coopérative pédagogique entre nous. Peut-être qu'un jour, elle sera ouverte à d'autres, mais c'est une manière aussi de répondre à ces exigences-là et de construire à une exigence donc, individuelle, parce que le stagiaire, il nous demande de plus en plus de l'expertise, et puis aussi de produire de l'intelligence collective. On est toujours en lien entre l'individu et un projet collectif. On est encore une fois cette position d'interface. Et dernière position d'interface aussi, c'est la production de connaissances. Alors là, c'est le dernier étage, un peu de la fusée. C'est que produire de la formation, aider à la construction de compétences et de savoir-faire, c'est notre cœur de métier. Mais aussi, on développe aussi d'autres outils de connaissances. C'est peut-être le cas, par exemple, des travaux de recherche. On va se placer en interface entre la recherche universitaire et la recherche appliquée et le milieu professionnel. Donc, par exemple, là, cette année, on a organisé dans les différents INSET un séminaire sur les risques, déclinés selon nos thématiques. Donc, par exemple, à Dunkerque, c'était les risques, la prévention et la gestion des risques technologiques. À Dunkerque, c'est un peu ce qui peut nous arriver de plus dramatique. Parce qu'on a 14 sites Céveso, une centrale nucléaire, des risques d'inondation. Donc voilà, et comment on fait avec cette matière-là? Et là, le rôle du CNFPT, il est de produire de la connaissance, de la réflexion, du recul, de l'analyse. Et cette production de ressources, elle se fait aussi, là, ouverte à tous, fonctionnaire ou pas, ce qu'on appelle notre wiki territorial. Et ce wiki territorial, vous pouvez aller sur Internet, taper wiki territorial, et vous y trouverez de la production, des articles, aussi bien sur une approche juridique, l'analyse des marchés publics, mais aussi sur le développement économique. Alors, comment il produit le wiki? Eh bien, on contractualise avec des auteurs universitaires, chercheurs. Et c'est là aussi où on aide quelque part la recherche à aller toujours plus finement dans les analyses. Et cette production de connaissances, elle vient compléter les connaissances de nos stagiaires. Parce qu'on observe aussi, alors, en termes de connaissances, elle est aussi la connaissance des métiers et des compétences. Ce que peut produire le CNFPT en termes de créativité, c'est cette connaissance aussi qu'il peut avoir de plus en plus fine sur les métiers, les compétences et les talents dans les collectivités locales. Là, on a fait cette année, sur 2013-2014, on a terminé une étude sur les métiers du développement territorial et les métiers de l'aménagement des territoires. Et on s'est aperçu, entre autres, que les agents qui arrivaient en collectivité sur ces métiers-là étaient excellemment formés. Donc le CNFPT, en matière de connaissances, finalement, sa plus-value, elle n'est pas tellement sur la connaissance juridique, technique, aussi bien méthodologique de conduite de projet, elle est plus sur l'animation de réseau, les questions de posture, les questions de savoir-être. Et c'est là où les stages sont des lieux de créativité et sont des lieux de production de nouvelles manières de travailler. On se rend compte qu'il y a une diversité de métiers. Derrière le mot développeur territorial ou développeur économique, ça recouvre des métiers très variés, très riches, très divers. Seulement hyper spécialisés aussi. Donc on découvre des professionnels très spécialisés. Et là où il y a de la production à faire avec le CNFPT, c'est en face de cette hyper spécialisation, c'est la question de la production du sens. Ok, je suis expert, j'ai la maîtrise technique de mon domaine, de mon métier, mais quel sens ça a par rapport à mon territoire? Quel sens ça a par rapport à ma collectivité, par rapport à mes partenaires? C'est la question du sens de l'action qui est retravaillée, qui est produite aussi pendant ces stages.
Excusez-moi, vous avez...
Eh bien, c'est terminé.
D'accord.
Voilà, je voulais terminer sur le sens de l'action.
D'accord.
Ben voilà, on y est.
Bon. Ben merci beaucoup. Ça nous donne vraiment de nombreux exemples des formes que peut prendre la créativité via le CNFPT. Est-ce que vous avez des réactions?
Non, moi j'avais une question par rapport à la dimension européenne et coopération. J'ai pu assister à l'INSET de Nancy, à un stage très intéressant qui m'a beaucoup nourrie après pour ma pratique. C'était un projet, c'était un stage transfrontalier. Luxembourg, Allemagne et puis la France bien sûr, et puis l'expérience régionale. Je trouve qu'on ne favorise pas assez ce type de stage, je ne sais pas, Montpellier peut-être avec la proximité de l'Espagne, vous n'êtes pas loin de l'Angleterre, Dunkerque, après je sais qu'il y a aussi le coût de ces formations, mais en tous les cas faire en sorte de prendre en compte ces questionnements-là. Je sais que beaucoup de gens sont intéressés, il y a peu de stages, il y en avait un sur Londres pour la culture, on se battait pour y aller, il y avait très peu de place. Mais c'est vraiment un enjeu pour aller voir ce qui se fait ailleurs et se nourrir, et peut-être aussi fédérer des échanges de professionnels.
Autre question? Moi, je veux juste faire une remarque, parce que Mathilde m'avait invité dans les locaux de l'INSET, sont d'ailleurs, je vous invite à aller les visiter, mais ce qui est intéressant, c'était l'atelier, et c'était assez surprenant pour l'image que j'avais, moi, du CNFPT, qui est quand même une vieille dame par certains côtés. On s'est retrouvé autour d'une table où il y avait quelqu'un qui prônait les coding goûtés, un directeur de Fab Lab, il y avait un directeur de collège qui faisait apprendre à entreprendre avec deux profs qui faisaient des humanités classiques. Enfin, c'était vraiment tout à fait étonnant. Donc là, voilà, il y a quand même des choses qui, effectivement, bougent très sérieusement. Voilà, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, vous voulez peut-être répondre sur l'Europe ?
Alors... Oui, sur l'Europe. C'est vrai que c'est une institution vieille à 42 ans. Je ne sais pas si c'est vieux. Hein.
C'est l'image que j'en avais.
oui, c'est vrai qu'à 42 ans, on peut être vieux encore. Oui, on peut déjà être vieux dans sa tête. Alors, sur les questions d'Europe. Oui, c'est une institution française. Donc, elle a un regard tourné encore vers la France et vers les besoins des collectivités. Ce qui fait que les besoins des collectivités sont encore majoritairement tournés vers des problématiques de gestion, des problématiques de ressources humaines, des problématiques de marché public. Donc c'est vrai que dans l'offre globale du CNFPT, l'offre qui relève que ce soit du champ de l'Europe, que ce soit du champ du développement des territoires, est assez... fine, on va dire, mais elle tend à se développer. D'ailleurs, le pôle, alors, ce qui va aider au développement de ces questions, c'est ces fameuses créations de pôles de compétences dont je fais partie. Donc, nous, pôle de compétences, on est là justement pour développer il y a une trentaine de pôles de compétences et ça en fait partie. Donc, on est là justement pour mettre en veille le CNFPT sur des questions qui nous ont un enjeu fort. Et qui, dans l'offre du CNFPT, n'est pas encore très développée. Donc, ça va venir. Alors, à ce propos, à Montpellier, auront lieu les rencontres territoriales. Le titre exact, c'est les rencontres territoriales européennes, je ne sais plus trop, et internationales, du 26 au 28 novembre à Montpellier, où là, vous avez 3 jours dédiés aux affaires européennes.
Oui, j'avais une question sur, sur un constat que j'ai fait dans une formation que j'ai fait à l'INET. La demande qui monte et qui monte aussi ailleurs, puisque je viens de la fonction publique territoriale, c'est des visites de sites, c'est-à-dire d'être en lien entre théorie et pratique, ce qui manque vraiment. Et puis la deuxième question, c'est comment faire quand on traite un sujet sur lequel je suis, puisque je fais une enquête nationale sur la mobilité, globale, pour réunir les différentes INSET ensemble, voir l'INET, et donc avoir une vraie démarche globale sur ces sujets. Comment vous faites ?
Alors, sur les visites de sites, c'est là où la créativité dans la contrainte prend tout son sens. Non, parce qu'il est, voilà, nous, notre mode de fonctionnement jusqu'à présent, c'est effectivement une salle de formation, un intervenant ou plusieurs intervenants, des stagiaires, ça fait un peu pièce de théâtre, unité de lieu, de temps et d'espace. Hein. La difficulté, alors, la visite de site, on est très conscient que c'est très formateur en soi. Et la seule difficulté, voilà, c'est que pour la mise en place, on est assez contraint par nos limites budgétaires, par nos modes d'organisation. Et là, c'est tout l'intérêt d'aller... C'est pas une pirouette, hein, c'est vraiment tout l'intérêt de rebondir et de créer du partenariat local qui permet justement de développer ou des visites de sites. Donc par exemple, en économie sociale et solidaire, le fait de travailler avec le RTES me permet d'organiser une visite de site ou une visite ou de rencontrer des acteurs. CNFPT, même si c'est une institution qui a ses moyens, je veux dire, c'est... Pour aller au-delà un peu de son mode de fonctionnement, a besoin de ce partenariat avec d'autres et a besoin de travailler en réseau. Voilà, donc c'est aussi... alors quand je dis ça, c'est peut-être aussi un appel que je fais quand on a d'autres organismes qui pourraient aussi nous apporter ces visites, ce matériau. Mais c'est vrai que pour nous, on est dans un exercice un peu contraint. C'est notre mode de fonctionnement, mais ce n'est pas impossible. Et au contraire, on peut le travailler, mais ça se travaille et ça se coproduit avec d'autres partenaires. Après, pour les questions de mobilité, là, dans le sens de votre question, c'était comment on réunit autour d'une rencontre ou d'un projet global sur les questions de mobilité les cinq instituts. Alors ça dépend d'une volonté nationale, essentiellement. Ce n'est pas impossible. Ça dépend d'une volonté nationale. Maintenant, on peut aussi le travailler entre ce qu'on appelle faire de l'interpol ou de l'inter-INSET. Il suffit d'une volonté et puis on peut rallier les autres INSET. On l'a fait par exemple sur le champ de la politique de la ville où les quatre INSET étaient présents à l'occasion d'une rencontre territoriale sur la politique de la ville. Il suffit une volonté. Ça ne va pas sans mal, encore une fois, mais la coopération ne va pas de soi. Enfin, c'est pas, je ne vais pas vous l'apprendre, on le sait tous. La coopération ne va pas de soi. Ça suppose de la volonté, du temps. Mais comme on l'a réussi en politique de la ville, on peut tout à fait le réussir sur le champ de la mobilité. La coopération avec les écoles privées, les grandes écoles... Alors ça, c'est un champ qui est encore plus délicat, alors que moi je ne pratique pas encore. Pour l'instant, elle n'est pas encore. Non, elle n'existe pas comme question, à vrai dire, au CNFPT. Parce que là, on entre dans un. Là, c'est pareil. On entre encore une fois dans un espace frontière entre public, privé, partenariat, prestataire, où là, le champ de vision, il n'est pas totalement, voilà, c'est pas totalement établi, c'est pas totalement clair.
D'accord. Merci beaucoup, Madame Van der Rusten. Je vais inviter Fiorenza Kout, c'est ça, à nous rejoindre. Donc, sur la question du territoire et de ses ressources. Donc vous êtes chercheuse en tradition populaire dans la vallée d'Aoste, vous êtes ethnologue et donc vous allez nous parler des traditions populaires et plus particulièrement des traditions culinaires ce qui va nous mettre en appétit avant la pause déjeuner, et sur les relations entre la notion de territoire, de terroir et de créativité.
Bonjour à tous. Merci pour l'invitation. Merci pour l'invitation à participer à ces journées d'études. Et je m'excuse d'avance pour les bêtises que je dirais pour ce qui concerne la langue française. Je m'occupe de recherches ethno-anthropologiques et en particulier dans le domaine des anciens remèdes pour les soins du corps et de l'âme. Et je vous parlerai du territoire du Valais d'Aoste. Ici, il y a une photo, vous voyez, c'est un territoire presque totalement montueux. Et ici, on peut un peu voir mieux qu'on est tout près de la Suisse, de la France, du Valais suisse, de la Savoie française. Et de l'autre côté, nous sommes tout près du Piémont italien. Et de ses produits. Une petite région de l'arc alpin du nord-ouest de l'Italie est presque totalement montueuse, avec des caractéristiques communes aux autres régions alpines, soit italiennes, soit françaises, soit suisses, et liées même par une langue commune au cours de l'histoire. La montagne et les différentes altitudes et les difficultés à cultiver le territoire a forgé aussi le caractère de ses habitants. Dur, silencieux et à la recherche du devin comme force à la survivance dans un endroit hostile aux hommes et aux animaux, témoigné par les églises. Et les nombreuses chapelles et les édicules votives. Les flancs de montagne ont été terrassés. Comme pour autres réalités alpines, avec un long travail, avant par la construction des murs en pierre sèche et après en remplissant ces petits espaces obtenus de terre. Ces morceaux de terre pour la moyenne montagne ont été destinés à la cultivation de la vigne. Et vous voyez ici, cette photo est prise dans la vallée centrale Basse-Vallée. Des arbres à fruits, des céréales, du chanvre et en petite partie destinée à jardin potager. Pour la haute montagne, exclusivement au sémail. Pardonnez-moi, mais je perds. Au sémail des céréales telles que l'avoine, le seigle et surtout l'orge. La plaine très réduite et liée au cours du fleuve la Doire-Baltée est toujours destinée. A été toujours destiné à semer froment, maïs et pommes de terre. Une recherche historique a permis de documenter que le maïs et la pomme de terre ont été introduits au Valais d'Aoste dans la deuxième moitié. Dans la deuxième moitié du 18e siècle et tout de suite intégrés dans l'alimentation quotidienne en remplaçant le pain noir dur. La polenta, avant l'introduction du maïs, produit qui est arrivé du Nouveau Monde, était préparée avec de la farine de seigle et restait très gluante. Aujourd'hui, la polenta est un des plats typiques plus connus et, dans l'imaginaire commun, lié à la montagne. Elle accompagne les assiettes de boudin. Les boudins, c'est celui-ci. Qui est préparé avec du sang du porc, de pommes de terre et du lard, avec des saucisses et de la mochetta, c'est un nom en patois. C'est ce morceau ici de viande qui, aujourd'hui, on le prépare avec de la viande du bœuf. Dans le passé, c'était exclusivement avec de la viande de bouquetin. Tous les plats à base de viande, tous les fromages, et en particulier avec la brosse, qui c'est une espèce de sérac. Quand on parle de brosse avec les personnes âgées, elles se rappellent du passé des pauvres repas à l'alpage faits chaque jour de polenta et brosse. Même les pommes de terre sont très présentes. En différentes recettes typiques, comme tous les fricandeaux, qui sont à base de pommes de terre, qui en patois on appelle trafole ou tartifle, et autres légumes. Dans le passé, pour les paysans de la plaine, un plat très pauvre et préparé presque chaque jour pendant la période de l'automne s'agissait du fricando avec les feuilles de rave et au printemps avec les feuilles de coquelicot. Une autre recette qu'on prépare encore pendant la fête du village d'Auzin, à 1363 mètres d'altitude de la commune de Maville, est la favo, à base de fèves, fontines, pâtes, pain noir, saucisses et lard. Les ingrédients sont typiquement liés au monde alpin. La fève s'adapte à tous les terrains. Elle a été toujours utilisée pour la rotation des cultures parce qu'elle enrichit le terrain d'azote, utile à la cultivation d'autres légumes. Parmi les fromages, la fontine est un peu la reine et elle est très connue dans le monde. On trouve une trace historique dans une fresque du XVe siècle de la lunette dédiée au charcutier, où on peut voir quelques formes de fromage typiques. Et c'est ça qui a été individué comme une possible forme de fontine à la fin du XVe siècle. Le fresque se trouve au rez-de-chaussée du château d'Issogne, importante demeure du Moyen-Âge de la famille noble de Chaland. La vraie fontine avec le tampon est un produit DOP, c'est-à-dire d'origine protégée. C'est ça le tampon que vous trouvez sur la fontine d'alpage. Il s'agit d'un fromage à lait cru et elle est produite seulement dans certains alpages pendant l'été. Pas tous les alpages ont herbes, même médicinales et fleurs qui donnent au lait qui peut être transformé en fontine. Dans toutes les autres alpages, généralement, on produit le fromazzo. Le fromazzo, c'est le fromage. C'est quelque chose qui, avant de préparer le fromage, tel que vous voyez, on enlève la crème pour le beurre. Pour la fontine, on fait même du beurre après la fontine, mais c'est un beurre très, très maigre. Je ne sais pas si on peut dire ça. Un autre produit qui a été très important pour l'alimentation paysanne, en particulier des montagnards, est le pain noir. Préparé avec les différentes farines, froment, seigle et orge. Une fois, si on vivait en moyenne ou en haute montagne au niveau des vallées latérales, le Val d'Oste a 13 vallées latérales, où le paysage était très sauvage et on produisait presque uniquement du seigle, alors se rendait nécessaire troquer du beurre, du fromage, du lard avec de la farine de froment et de maïs. Ce dernier, cultivé seulement dans la plaine, on l'utilisait pour préparer un pain avec un mélange de deux farines, seigle et maïs. Les personnes encore qui se rappellent d'avoir mangé ce type de pain pendant la période de guerre ont mémoire d'un bon parfum pour le nez, mais pas très agréable pour la bouche. Selon la tradition, et encore dans quelques hameaux aujourd'hui, le pain était préparé collectivement dans chaque village au début de l'hiver et en concomitance des fêtes de Noël. On le faisait pour la raison qu'il était difficile de conserver la farine en grande quantité par différentes raisons. On allumait le four du village et chaque jour, à tour de rôle, les familles cuisaient le pain pour toute l'année et le conservaient au grenier disposé sur des râteliers. Ici, c'est une photo très ancienne où les personnes se mettaient toutes ensemble. Et c'était collectif, la préparation du pain. Très, très intéressant, ça. Et pour le conserver, on le conservait sur les râteliers en patois. Et, et ça pour ne pas permettre aux rats de s'approcher. Chaque famille avec un marque-à-pain. Le marque-à-pain, c'est-à-dire une espèce de timbre pour reconnaître les propres pains. Ici, on voit ce qu'il est. Et dans cette production artisanale liée à la à l'emploi du bois, et on peut voir toutes les capacités et toutes les sentiments, même religieux, très très forts dans un pays de montagne. Et même le sens de la beauté, la recherche esthétique. Terminer la panification, on mettait à part du pétrissage du pain noir pour y ajouter les noix, les noisettes, les châtaignes, les pommes et le miel, pour, c'est-à-dire des produits conservés qu'on avait à disposition, et on obtenait la micoula ou le micotte et la piatta qu'on deve pour la joie des enfants en prévision des fêtes de Noël et de fin d'année. Un autre produit très lié au territoire et même très fameux est le lard d'Arna. On le connaît partout. Chaque famille élevait à légumes et châtaignes un ou deux porcs pour avoir à disposition viande, saucisses, jambon et surtout le lard. Dans la cuisine de montagne, qu'une fois ne connaissait pas l'huile d'olive, le lard était utilisé comme assaisonnement pour tout ce qu'on cuisait et l'huile de noix pour assaisonner à cru. Arna est un petit, ça c'est le lard, est un petit village de la Basse-Vallée et ici on produit l'unique lard DOP à niveau européen. Tout a pris pied grâce à la fête du lard aux milliers de personnes qui viennent de tout part pour 4 jours à la fin du mois d'août connaissent le plaisir de goûter des assiettes à base de lard préparées avec des chefs étoilés. Il est même rentré dans le précis de Slow Food créé par M. Petrini au Piémont. Alors, préparé par des chefs étoilés. Ce produit, qui n'avait pas beaucoup de valeur dans la tradition, a obtenu une revalorisation à niveau national. Et aujourd'hui, le lard est connu et on le mange en différentes préparations, mais surtout comme un excellent hors-d'œuvre. On le mange disposé sur une tranche de pain noir avec du miel et un cerneau de noix. Pour obtenir ce lard DOP, on doit le conserver dans le doyle. C'est ça, mais plus grand, hein, pas ce petit-ci, c'est pour faire voir comme il était fait. Le doy en bois de châtaignier pour 3 mois avec du romarin, de la sauge, du laurier, de l'ail et couvert avec une saumure préparée avec du sel et de l'eau. Dans la maison paysanne, la conservation des denrées alimentaires pour tout le long hiver avant l'ère du congélateur avait des espaces précis destinés à chaque produit. Tout près de la cave, on y conservait ou on conservait le vin, une seconde pour le fromage et le lait, et après il y avait une autre plus petite appelée crottin, ce que vous voyez, où on conservait les pommes de terre, les raves, les betteraves et les carottes dans du sable sec, les poireaux, les céleris et les choux dans la terre. Pour les courges et les fruits, était réservée une chambre près du fenil, sèche et chaude, pour aider les fruits à mûrir petit à petit. Tandis que pour les herbes sauvages, les fines herbes et les raisins, on les conservait suspendus à des fils de fer, les noix et les noisettes dans des paniers en vannerie, les châtaignes dans des sacs en jute, les œufs dans la cendre, les farines dans les récipients en bois, et pour tout était réservé le grenier. Une grande complexe maison habitée par la famille patriarcale. Le changement social intervenu auprès de la Seconde Guerre mondiale avec le développement de l'industrie et d'une société de consommation a changé radicalement la vie des personnes et en particulier les connaissances ancestrales du monde paysan. En ce précis moment historique, la crise économique et des valeurs humaines, beaucoup de personnes se rendent compte de l'appauvrissement culturel régnant dans la société actuelle et sont à la recherche d'un monde plus lié aux valeurs que la tradition conserve encore dans son sein amoureusement. On peut créer une nouvelle économie tenant compte de l'existence de l'être humain en connaissant bien la tradition et les liens indissolubles entre identité culturelle et territoire. Connaître la tradition, c'est pas vivre dans le passé, suspendu sur un nuage de passage, mais c'est s'enraciner. Et les racines sont l'unique forme que nous porte à regarder devant nous, à voir et à avoir un regard très positif vers le futur. Merci.
Merci beaucoup. Peut-être une réaction.
J'ai lu, j'étais très vite.
Bon, vous êtes très bien compris, merci.
Oui, je n'étais pas absolument capable de parler comme ça, à bras, je ne sais pas ce qu'on dit.
Très bien.
Merci.
Écoutez, je pense que tout le monde doit avoir faim. Une question ?
Oui, un peu de photos porte tout le monde.
C'est juste... Dans quel cadre vous êtes chercheuse ? Est-ce que c'est pour vous-même, parce que ça vous intéresse ? Est-ce que c'est pour une université ?
Non, je suis chercheuse pour la raison que j'ai envie de récolter la mémoire orale que je trouve très intéressante, qui permet de maintenir, de découvrir même soi-même. Et je ne le fais pas pour des institutions, mais je le fais et je vais publier les matériaux que je vais trouver, je vais les réélaborer et je vais les publier, c'est ça. Et je trouve que c'est très important en ce moment récolter la mémoire orale pour la raison que les personnes âgées vont mourir et avec eux, il va se perdre un patrimoine qu'il n'y a pas écrit. Et dont un patrimoine que je découvre être une stratigraphie millénaire des idées des personnes, de la créativité des personnes, de la capacité de voir un territoire et de comprendre comment on peut utiliser au mieux le territoire sans faire des dommages au territoire même. Donc c'est ça. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'écologie, beaucoup de ces choses, mais si on parle avec les personnes âgées qui ont toujours travaillé à la campagne, ils vont transmettre un patrimoine encore incroyable. Et c'est ça que je trouve très important.
Juste d'ailleurs, une information, vous pourrez regarder sur le site de l'EMF, il y a le compte-rendu de la table ronde que nous avions organisée il y a 3-4 mois sur musée, créativité et territoire, puisqu'on fait entre les journées d'automne une ou deux tables rondes sur des thèmes. Et vous verrez le musée de la poire tapée de Rive à Rennes. Je vous incite à déguster la poire tapée, vous verrez. Et tout comme il y a le poirion à Saint-Sauvan, parce que j'aperçois Philippe là-bas, au fond. Voilà, donc une dernière question.
C'est pas une question, c'est juste une information. Je pense que c'est intéressant de regarder la notion d'économie de Pierre Calam, qui montre comment cette économie, c'était l'ancêtre de l'économie. Et si on regarde l'origine des économistes, il y a un jeune qui vient de sortir un bouquin sur ça, qui d'ailleurs sont tous bretons, eh bien on voit que dans l'origine de l'économie, ce n'est pas du tout l'économie d'aujourd'hui. Donc voilà, donc je voulais vous dire que c'est intéressant en termes de patrimoine de regarder que l'économie n'était pas celle qu'on voit aujourd'hui et qu'en fait, on ne fait que revenir sur nos racines.
Écoutez, nous vous invitons à passer au buffet, c'est juste à côté, et on reprend vers 14h, si c'est 14h05, on verra, mais 14h, voilà. Merci Virginie, en tous les cas.